Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Bienvenue, je suis Sonia Oulad Ben Saïd sur IDFM Radio et à la technique Francky. Excellente journée sur IDFM Radio, sur le 98 FM, sur idfm98.fr pour le site internet et l'appli IDFM Radio. Vous écoutez l'émission Tous les droits, l'émission qui répond à toutes vos questions d'ordre juridique. Selon le célèbre adage, nul n'est censé ignorer la loi. Mais force est de constater que les lois changent régulièrement, se complexifient et que chaque cas est unique. Alors pour vous aider à y voir plus clair, je recevrai chaque mois des avocats du barreau du Val-d'Oise qui répondront à toutes vos questions, chacun dans leur domaine d'intervention respectif. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux droits des mineurs. Entre protection et responsabilité, quelles sont les règles quand un enfant est victime ou auteur d'un délit et ou crime? Deux avocates du barreau du Val-d'Oise nous éclairent sur les enjeux de la justice des mineurs et je les remercie vivement d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Maître Élodie Petit.
Bonjour.
Vous êtes avocate au barreau du Val-d'Oise, votre cabinet est situé à Pontoise. Vous exercez notamment en droit pénal des mineurs, en droit de la famille et du patrimoine et en réparation du préjudice corporel.
C'est ça.
C'est tout bon?
C'est tout bon.
J'ai rien oublié?
Non, tout est bon.
Merci beaucoup d'être présente au micro d'IDFM Radio pour ce nouveau numéro de l'émission Tous les droits. À vos côtés, Maître Séverine Colnard. Bonjour.
Bonjour Sonia.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, merci.
Votre cabinet est également situé à Pontoise. Vous exercez en droit de la famille, en droit civil et en droit pénal, notamment en droit des mineurs. Est-ce que j'ai oublié des compétences?
Non, vous n'avez oublié aucune compétence, Colnard. Sonia. Ah. J'ai une activité plutôt généraliste.
Très bien. De toute façon, je vais vous poser encore plein de questions sur vos parcours. Merci à toutes les deux d'être mes invitées sur IDFM Radio pour ce nouveau numéro de Tous les droits. Une émission, bien sûr, à retrouver en podcast sur le site idfm98.fr ou sur notre appli IDFM Radio. Et tout de suite, je me tourne vers vous, Maître Élodie Petit. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours, comment vous êtes devenue avocate, pourquoi vous êtes devenue avocate?
Oui, bien sûr. Merci en tout cas pour l'invitation. Alors moi, j'ai prêté serment en novembre 2015, donc il y a quelques jours seulement, j'ai fêté mes 10 ans de barre. Voilà, la vocation, elle est venue très jeune puisque c'est arrivé au collège. J'étais en troisième et j'ai défendu un de mes camarades de classe devant mon professeur de français qui m'a dit « Eh ben, tu ferais peut-être bien une bonne avocate ». Et donc, il a semé cette petite graine en moi et quelques années plus tard, je me suis retrouvée sur les bancs de la faculté de droit de Reims parce que je suis originaire du Nord-Est. Voilà, et j'ai obtenu un master 2 en droit pénal et sciences criminelles parce que dès le départ, en fait, ce que j'aimais dans le droit, c'était comprendre un petit peu le parcours de chacun, comment on pouvait en arriver là, commettre une infraction, mais aussi comprendre comment se sentent les victimes dans ces cas-là, les accompagner au mieux, et puis aussi œuvrer à ce que bah, ça ne se reproduise pas, mine de rien, c'est aussi le rôle de l'avocat. Et j'ai obtenu en complément un master 2 en droit de la santé à Nancy, où là, j'ai touché du doigt la réparation du préjudice corporel, qui est aussi un pan du droit pénal que j'apprécie particulièrement. Quand j'ai eu mon CAPA, j'ai intégré un cabinet d'avocats généralistes sur Pontoise, voilà, qui m'ont formé chacun à leur manière et qui étaient tous les trois membres du groupe mineur. Donc forcément, bah, j'ai eu à aller plaider pour des mineurs devant les juridictions de Pontoise et c'était une évidence pour moi de maintenir ça à titre individuel et je suis installée maintenant depuis 2023 et je continue voilà à défendre les mineurs et en complément, j'ai une activité avec une approche pluridisciplinaire parce que j'accompagne aussi les gens en droit de la famille et du patrimoine. Et pour moi, c'est intimement lié. C'est utile aussi pour moi de proposer aux gens qui se séparent peut-être d'être là aussi s'il y a une difficulté devant le juge des enfants, de guider les parents, de les accompagner et puis bah, évidemment d'accompagner les mineurs, qu'ils soient victimes ou confrontés à la juridiction pénale en cas d'infraction. Donc une vocation qui est née très tôt, donc au collège, vous nous l'avez dit. Et alors vous êtes installée après au barreau du Val d'Oise, comment vous êtes arrivée dans ce département ?
Bon, c'est la vie qui fait que hein, mon conjoint a trouvé son premier job en région parisienne. Donc de fait, j'ai intégré l'école de l'EDAC, donc c'est à Versailles. Et puis je connaissais pas grand monde dans le coin, donc j'ai intégré ce cabinet des trois avocats sur Pontoise. Au départ, c'était pas forcément, je connaissais pas le barreau du Val d'Oise, mais j'y ai trouvé ce que je cherchais, une certaine proximité avec les confrères et les juridictions telles que je l'avais connue aussi dans mes stages dans les Ardennes ou dans la Marne. Et donc c'est pour ça que j'ai pas bougé, parce que ça me convient parfaitement, et aujourd'hui je me sens presque appartenir aussi à ce département.
Très bien. Et donc là, vous êtes donc à Pontoise, votre cabinet est situé à Pontoise. Donc vous avez été collaboratrice. Est-ce que vous pourriez rappeler aux auditeurs ce que c'est qu'un avocat collaborateur ? Parce qu'on commence souvent par être collaborateur.
Oui, alors ce n'est plus une obligation aujourd'hui, mais c'est vivement recommandé. Ça permet d'intégrer un cabinet et de bénéficier quand même de l'expérience d'avocats qui ont prêté serment depuis un peu plus longtemps que nous, de traiter leurs dossiers. Voilà, et ça n'empêche pas pour autant de pouvoir développer sa propre clientèle. Donc on n'est pas salarié, on reste un avocat indépendant, et au fur et à mesure, ça permet de développer sa clientèle jusqu'à ce que il y a une sorte de déséquilibre et qu'on se sente prêt à se lancer seul et à traiter ses propres dossiers.
Donc là, vous êtes installé seul, vous exercez à titre individuel dans les matières que vous avez rappelées. Et donc voilà, c'est important, vous l'avez à juste titre précisé, quand on est avocat collaborateur et puis avocat libéral, on n'est pas salarié. Voilà, donc on a des charges à payer, on a plein de gens qui nous demandent beaucoup d'argent, notamment les organismes sociaux. Enfin voilà, mais c'est important de le préciser parce que c'est un statut très particulier, le statut d'avocat collaborateur et puis après l'exercice libéral. Donc on est aussi, vous êtes aussi une chef d'entreprise.
C'est ça, et c'est ce qu'on oublie parfois hein, quand on se lance dans des études de droit. On pense qu'on va faire du droit, mais effectivement, il faut avoir certaines compétences dans la gestion d'une entreprise. Et aujourd'hui, c'est un véritable enjeu parce que on est nombreux. On a aussi la concurrence avec Internet, les réseaux sociaux et tout un tas d'organismes qui se lancent aussi dans le juridique. Et puis l'IA. Donc voilà, c'est un challenge, surtout aussi quand on est une femme, quand potentiellement aussi on atteint la maternité. Il y a plein d'enjeux qui se manifestent, mais c'est aussi très intéressant de pouvoir gérer une entreprise parallèlement à tous les enjeux du droit.
Et vous avez raison de le préciser. En plus, le barreau du Val d'Oise est un avocat, je crois, essentiellement féminin. Effectivement, c'est important de rappeler que les consoeurs doivent aussi, des fois, composer avec leurs multiples casquettes et chef d'entreprise. Et ça, c'est vrai qu'on oublie d'intégrer ça. L'avocat, c'est un chef d'entreprise. Il doit développer son activité. Et puis, quand on exerce à titre individuel, on doit décrocher le téléphone, s'occuper de la comptabilité, s'occuper de ses locaux. Donc, il y a plein de choses à faire en plus d'aller plaider les dossiers ou de traiter le fond des dossiers.
Tout à fait.
Et ça vous plaît, cet exercice complet ?
Oui, et en fait, on s'ennuie pas. Ça change tous les jours. Et pour avoir expérimenté le rôle plutôt de juriste d'entreprise, moi, ça me va bien. C'est jamais la même journée. Donc voilà, c'est vraiment un métier qui me plaît pour ça.
Merci en tout cas de votre témoignage, de votre passion et de votre engouement pour cette jolie profession. Maître Séverine Colnard, et vous, alors, comment avez-vous décidé un jour de porter cette jolie robe ?
Alors moi, c'est pas du tout par vocation. Je suis arrivée dans la profession tardivement, à l'âge de 30 ans. C'était quand même en germe parce que depuis le collège, comme ma consœur Élodie Petit, les professeurs me voyaient tous avocats. Mais moi, je m'y voyais pas du tout. Je voulais être juriste d'entreprise, une femme d'affaires. Et finalement, j'ai été salariée plusieurs années. Et quand j'ai eu mon premier enfant, je me suis je me suis dit, tiens, pourquoi pas devenir avocate, sous l'impulsion de plusieurs personnes qui m'avaient dit, et notamment une avocate qui m'avait téléphoné pour me dire, écoutez, ce que j'ai eu à connaître de certains de vos travaux, il faut absolument que vous passiez l'examen d'avocat. Je l'ai passé un peu comme ça en dilettante, et puis finalement je l'ai eu et j'ai découvert une profession formidable dans laquelle je me suis sentie moi. C'était fait pour moi, tout le monde avait raison et j'ai eu tort de ne pas les écouter plus tôt. C'était vraiment passionnant.
Et alors donc vous étiez juriste dans quel domaine?
J'étais juriste en protection sociale, fiscalité.
Ah oui, d'accord. Et donc c'est
rien à voir. J'ai fait une maîtrise de droit des affaires à l'époque à l'université de Nancy 2. J'ai ensuite fait un DESS, donc qui est l'ancien master 2, l'ancienne dénomination des master 2, un master 2 en droit processuel contentieux. Donc malgré tout, j'avais quand même envie de savoir comment ça fonctionnait parce que j'avais pu apprendre au cours de mes études qu'on avait des droits. Et que ça servait à rien d'avoir des droits si on ne sait pas comment les exercer. Donc j'ai voulu me spécialiser un peu dans mes études dans la matière de la procédure.
Donc vous venez de l'Est, vous?
Je viens de l'Est de la France, voilà, j'ai fait toutes mes études à Nancy.
C'est drôle, d'accord, très bien. Et alors, même question, et pourquoi le barreau du Val-d'Oise alors?
Alors le barreau du Val-d'Oise, un peu comme ma consoeur, la région parisienne pour des considérations familiales, et puis le barreau du Val-d'Oise parce que j'avais pu rencontrer au cours de stages des professionnels du droit, des magistrats notamment, qui m'ont conseillé d'intégrer le barreau du Val-d'Oise, et là encore ça a été une formidable surprise parce que nous côtoyons des confrères qui sont confraternels, des magistrats qui sont encore accessibles contrairement à certaines juridictions, et j'ai l'impression qu'on peut avancer dans le sens de l'intérêt des justiciables à Pontoise, enfin au barreau du Val-d'Oise.
Et donc vous avez été collaboratrice aussi, puis vous vous êtes installée, c'est le même parcours que...
Oh, tout à fait, j'ai été collaboratrice pendant 10 ans au sein d'un cabinet généraliste. Alors à la base, je ne voulais absolument pas faire de droit pénal. Et puis finalement, ça a été loupé puisque mon maître de stage, c'est comme ça qu'on les appelle, mon maître de stage était pénaliste. Il m'a donné un petit peu le virus, il m'a très très bien formée. Et finalement, c'est une matière que j'apprécie et je pense avoir la fibre pour défendre les gens.
Et alors, vous êtes avocate et donc avec cette composante chef d'entreprise, et ça vous va bien ça aussi d'avoir cette casquette-là, de devoir développer.
Alors, ça me va bien. Disons que j'y suis un petit peu contrainte. Hein. Moi, ce que j'aime, c'est défendre les gens. La comptabilité, j'avoue, c'est pas ce que je préfère faire. Mais ce que disait ma consoeur Élodie est parfaitement juste. On est obligé. On peut pas être que des artisans du droit. Et pour que ça fonctionne, ben, on doit avoir une mentalité de chef d'entreprise, encaisser nos honoraires. Connaître notre seuil de rentabilité, faire ce qu'il faut pour l'atteindre. On doit être rigoureux parce que les organismes sociaux, les impôts, l'ordre des avocats vérifie qu'on fait les choses conformément aux règles de droit et de la loi.
Vous avez raison de le rappeler. Merci beaucoup pour ce rappel. Après, je précise que le barreau du Val-d'Oise et tous les barreaux de France ont pour fonction aussi de vérifier que les pratiques des avocats sont conformes au règlement national interne des avocats. Donc, on a des règles à respecter, des règles de déontologie. Mais la profession change et donc ces règles évoluent aussi. Donc, je pense notamment au fait qu'on peut faire de la publicité. Nous, maintenant, en tant qu'avocat, ce qui n'était pas possible il y a quelques années, maintenant on peut, mais très encadré. Voilà, donc nous aussi, en tant qu'avocat, on doit aussi évoluer dans nos pratiques, dans notre façon de communiquer. On a en plus de confrères qui communiquent sur les réseaux sociaux, qui publient plein de leur quotidien. Voilà, donc ça, le monde change aussi et notre profession évolue également.
Voilà, c'était important de le rappeler. Je vous propose de marquer une première pause musicale avant de poursuivre notre entretien avec mes deux avocates du jour en droit des mineurs.
Elle passe devant moi sans jamais me voir. Je suis le fantôme de sa vie. Et quand vient le soir que j'ai croisé son regard, j'y pense toute la nuit. Dans ce long, long rêve, quand est-ce que je me lève? C'est un long, long rêve, mais quand est-ce que je me lève? Un nouveau jour s'éveille, elle est mon soleil, je suis l'ombre de ses pas. Belle comme une étoile, au sourire astral, mais quand est-ce que je lui parle? Dans ce long, long rêve, mais quand est-ce que je me lève? C'est un long, long rêve, mais quand est-ce que je me lève? Je devrais tout lui dire, affronter mes désirs, quitte à tout perdre. Des années que j'attends, un éclair, un moment pour trouver du courage. Dans ce long, long rêve, quand est-ce que je me lève? C'est un long, long rêve, que quelqu'un me réveille. Mais pourquoi j'attends?
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Merci d'être resté avec nous sur IDFM Radio. Vous écoutez l'émission Tous les droits, aujourd'hui consacrée aux droits des mineurs. Je vous propose maintenant d'aborder les questions des auditeurs dans cette matière. Et je commence avec vous, Maître Séverine Colnard. Première question, à partir de quel âge un mineur est-il responsable pénalement ?
Alors, c'est une question qui est intéressante et pas si simple que ça. Savez-vous, Sonia, quel est ce qu'est la responsabilité pénale ?
Je le sais, mais là, parce qu'on parle des mineurs, alors du coup... Non, je sais pas, Maître Colnard, dites-moi.
Alors, je vais tout vous dire. La responsabilité pénale, c'est l'obligation de répondre des infractions qui ont été commises et qui doivent être sanctionnées. Elle est différente de la responsabilité civile. La responsabilité civile, qui est le fait d'avoir causé un dommage à quelqu'un. C'est pas parce que vous causez un dommage à quelqu'un qu'immédiatement, vous êtes responsable pénalement. Il faut avoir commis une infraction prévue et réprimée par le code pénal. Et pour être responsable pénalement pour les mineurs, les adolescents, les enfants, on doit avoir conscience que, un, ce qu'on a fait, c'est une infraction prévue et punie par le code pénal, et deuxièmement, on doit pouvoir être sanctionné. Alors c'est pour ça, Sonia, qu'on ne parle pas forcément d'âge en matière de responsabilité pénale, mais plutôt de capacité de discernement. La majorité pénale, elle est fixée à 18 ans. Alors vous allez me dire, oui, Maître Colna, mais c'est oui, quoi Maître c'est Colna. Quoi le discernement? À quel âge on a un discernement? Là encore, c'est pas très très clair. Enfin, ça l'est, mais c'est pas automatique. Alors, dès 1791, je vais vous faire un petit peu d'histoire.
J'adore.
Dès 1791, la notion de discernement a été introduite dans notre droit pénal. Savez-vous que ça n'est qu'en 2021, avec la promulgation du Code de la justice pénale des mineurs, que la France s'est mise en conformité avec la Convention internationale des droits de l'enfant, la CIDE, qui avait été pourtant ratifiée par la France le 20 novembre 1989, pour finalement définir un petit peu ce qu'est la notion de discernement. Désormais, on considère, la loi considère désormais que avant 13 ans, un enfant n'est pas capable de discernement. C'est-à-dire, et ça c'est dans la loi, qu'on doit avoir compris et voulu que l'acte qu'on a commis. Et puis, on doit être apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont on fait l'objet. Alors immédiatement, comment on vérifie ça? Tous les enfants n'évoluent pas de la même manière. Certains enfants à 10 ans vont être très éveillés, d'autres à 15, 16 ans vont être un petit peu plus poussifs. Comment on va vérifier qu'on a voulu l'acte qu'on a commis et qu'on est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont on fait l'objet? Eh bien là, c'est on va utiliser ce dont on a entendu parler à de nombreuses reprises au cours des dernières semaines, c'est le faisceau d'indices.
Oh, d'accord.
Eh oui, Sonia.
Quels indices?
Le magistrat va vérifier quelle est un peu la personnalité du mineur. Donc pour ça, il va faire appel à des éducateurs. Lorsque les enfants arrivent au tribunal, il y a toujours un éducateur qui va poser quelques questions à l'adolescent sur sa vie, sur principalement sur sa vie, ses motivations, sur ce qu'il veut faire un petit peu plus tard, sur son contexte familial. On va vérifier également les résultats scolaires de l'enfant. Est-ce qu'il suit une scolarité normale? Est-ce que, au contraire, il est pris en charge dans des dispositifs particuliers parce que il peut être atteint de troubles cognitifs, voire même de troubles psychologiques ou psychiatriques? Et puis, le juge peut ordonner une mesure d'expertise en disant « moi, aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vérifier si cet adolescent, il est capable de discernement ou pas. Donc, je vais demander une expertise psychologique. » Voilà, Sonia, un petit peu comment ça se passe. On n'est pas toujours considéré comme ayant son discernement, même après 13 ans. Mais alors, on peut se demander, est-ce qu'on est toujours considéré comme n'étant pas capable de discernement avant 13 ans, à 12 ans? Un adolescent qui est 12 ans, ça correspond, pour les auditeurs, mais qui, j'imagine, le savent, ça correspond à des adolescents qui sont scolarisés en classe de 5e.
D'accord, oui, je faisais le calcul.
Voilà,
là, en même temps.
Ils sont, okay. Ils sont au collège en 5e. Eh ben non, Sonia, non. L'âge de 13 ans et le fait qu'on ne soit pas considéré comme ayant un discernement avant l'âge de 13 ans, ça n'est qu'une présomption. Et cette présomption, elle peut être renversée. Parce que, je confirme mon propos du début, tous les enfants n'évoluent pas de la même manière. Certains passent leur bac à 14 ans et on imagine qu'ils vont comprendre un peu plus aisément le sens de la procédure pénale dont ils vont faire l'objet.
D'accord, donc je retiens, donc, allez, on va dire 13 ans, présomption
de discernement.
Alors, par exemple, dans votre pratique, quel est l'âge, le plus jeune âge que vous ayez eu à défendre sur des questions pénales?
11 ans, Sonia. 11 ans.
Voilà. Bah, alors, donc, alors, attends. Parce que ça, c'est, je calcule pour mes enfants. 11 ans, ça veut dire, ils sont
en sixième.
Voilà. Donc là, par contre, on peut se dire que, enfin, dans votre cas, c'était un jeune, on considérait qu'il était capable de discernement, lui?
Non. Le magistrat a considéré qu'il n'était pas capable de discernement. J'ai eu plusieurs cas d'adolescents de 11 ans qui ont comparu devant le juge des enfants. Une petite bande d'adolescents de sixième qui n'ont pas trouvé mieux que de sortir et de détruire des tombes.
D'accord.
Ça les a beaucoup amusés. Ils n'ont pas du tout compris la portée de leurs actes. Pour eux, c'était un endroit comme un autre. Et ils ont été déférés, c'est-à-dire qu'à la sortie de leur garde à vue, ils ont été présentés à un magistrat. D'abord au un procureur de la République et ensuite au juge des enfants qui a considéré effectivement, compte tenu du discours qu'ils avaient, qu'ils n'étaient pas capables de discernement. Et puis, on a eu énormément d'adolescents qui ont été également déférés devant le juge des enfants, alors qu'ils étaient âgés de moins de 13 ans, au moment de l'attentat commis contre Samuel Paty. Des consignes avaient été données aux enseignants de signaler le comportement des adolescents qu'ils avaient en classe au moment des minutes de silence et plus généralement un petit peu après l'attentat qui avait été commis. Et donc, on a eu beaucoup d'adolescents qui ont été déférés au tribunal pour des faits d'apologie du terrorisme, parce que soit ils avaient ri au moment de la minute du silence, soit ils avaient donné des avis qui n'étaient pas très opportuns, ou en tout cas qui étaient complètement inadaptés. Bon, ils avaient 11 ans, 12 ans, complètement inadaptés sur ce qui s'était passé. Et donc, les choses avaient été prises très au sérieux par le parquet de Pontoise, qui avait, et d'ailleurs tous les parquets de France, parce qu'ils avaient eu des consignes de la part du ministère pour déférer, être sans pitié à l'égard des adolescents et les déférer. La plupart du temps, les juges des enfants qui vérifient, qui sont les juges compétents pour vérifier la capacité de discernement, n'avaient pas poursuivi, avaient constaté l'irresponsabilité pénale des mineurs.
D'accord. Et alors j'ai une question, réflexion, notamment concernant les infractions à caractère sexuel, parce que c'est un sujet, la question de l'âge des auteurs, notamment sur ce type d'infraction. Est-ce que vous avez un commentaire à faire Est-ce que vous avez pu avoir, vous personnellement, dans votre cabinet, des mineurs, donc de moins de 13 ans, poursuivis pour ce type d'infraction?
Oui, tout à fait. J'en ai eu 12 ans. Pour viol, ouais. qui ont été poursuivis, mais c'était avant la loi de 2021 qui avait précisé un petit peu la notion de discernement. Et je trouve que c'était assez frustrant au niveau de la sanction qui a pu être prononcée, enfin la mesure éducative, puisque, et ça va être ma consoeur qui va pouvoir vous en parler, mais la latitude des magistrats est très 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 limitée. Mais ça, je vais laisser ma consoeur en parler, puisqu'elle va développer les sanctions qui peuvent être prononcées contre les mineurs, ou les mesures éducatives, plus précisément sur les mineurs qui sont âgés de moins de 13 ans.
Et un commentaire, parce que vous avez rappelé l'historique des lois relatives aux mineurs dans ce pays. Est-ce que vous œuvrez, vous, alors dans le cadre de votre pratique ou même en tant que bénévole, justement, pour informer les enfants et les mineurs de leurs droits? Parce que je trouve qu'en fait, il y a une vraie lacune aussi en termes de pédagogie vis-à-vis des enfants eux-mêmes. C'est-à-dire que qui les informe? Comment on peut les... Donc ma question, c'est dans votre pratique, est-ce que vous avez un peu un rôle de pédagogue sur ces sujets-là?
Oui, quand on est avocat, vous savez, Sonia, on est très souvent réquisitionnée ou en tout cas demandée, et notamment par des enseignants. Donc j'interviens dans des collèges, dans des lycées, pour rappeler un petit peu la loi, les règles de droit, ce qu'encourent les adolescents. Ils sont souvent très très friands des interventions des avocats. Les professeurs sont très contents de nous voir venir. C'est très très enrichissant, et même pour nous de recueillir la parole un peu plus libre des adolescents, puisqu'ils sont dans un autre cadre qu'un cadre judiciaire, et ils ont souvent beaucoup de choses intéressantes, justes à raconter. Et c'est bien de déconstruire parfois certaines idées préconçues, les fake news qui peuvent être diffusées sur les radios, sur les réseaux sociaux, ou même parfois dans la presse ou dans les radios. Donc c'est vraiment très très important de n'écouter que les professionnels qui pourront vous donner la loi, les règles véritables, et pas seulement ce que le copain en a pensé, ce qu'il a vécu, ce qu'il en pense.
Donc collège et lycée, collège et lycée. Ou primaire, alors, parce que c'est pareil, je me dis que
on devrait.
Est-ce que vous partagez mon sentiment? Il y a des associations qui peut-être qui le font, mais je trouve que c'est un peu le primaire, non. C'est un peu la période ignorée, et je pense qu'il y aurait un vrai travail quand même à faire, même vis-à-vis des enfants.
Je suis parfaitement d'accord avec vous, Sonia, et ce d'autant que souvent les professeurs négligent un petit peu l'éducation civique, les EMC comme on appelle aujourd'hui, au détriment des cours d'histoire. Alors ils ont sans doute pas le temps de le faire, mais je trouve que l'éducation civique est très très importante.
Oui, dès le plus jeune âge.
Moi,
en tant que parent d'élève, j'ai découvert que les enseignants avaient aussi l'obligation dès petit d'aborder les sujets de consentement, d'intimité. Et c'est récent, ces mouvements-là d'information des enfants, même extrêmement jeunes, parce que il y a effectivement leurs droits, leurs devoirs, mais il y a aussi leur éducation de citoyen. Et pour aborder la responsabilité pénale à partir de 13 ans, notamment, là encore, je pense à ces infractions à caractère sexuel, il faut dès petits qu'ils aient conscience de ce qu'est l'intimité, le consentement.
Alors, pour ça, je peux donner un conseil aux auditeurs.
Merci.
C'est de regarder sur YouTube la vidéo « La tasse de thé ». Elle est formidable, cette vidéo. Elle va vous permettre d'imaginer très simplement ce qu'est le consentement, et vraiment c'est très très bien fait, et vous verrez. Donc c'est la tasse de thé, vous regardez sur YouTube sur le consentement, et c'est une allégorie du consentement, et les enfants peuvent comprendre très très aisément quand on doit s'arrêter.
Non mais c'est, merci beaucoup, parce que je trouve que même en tant que parent, il y a des sujets qu'on n'arrive pas forcément à aborder, même avec des enfants plus jeunes qui n'ont pas forcément la maturité, mais auxquels on veut faire passer des messages pour leur sécurité et celle des autres d'ailleurs. Donc merci beaucoup Maître Colnard pour ces précisions. Je vous propose de marquer une nouvelle pause musicale avant de poursuivre, de répondre à vos questions passionnantes en droit des mineurs. À tout de suite. I'm not that easy to tame. You should see me in the days like all my tears turn to ice. That's the sweetest escape. Every time the feeling kicks in, I might stay through the night. Bet you get it now. Rock that dinner now. Track up, touch my new gun, no going to war. Think you're running back. Guess we gonna be no one. Walk it out, talk it. You got go and I do set you. Watch me running up the place. I'm already started.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Vous êtes sur IDFM Radio, vous écoutez l'émission Tous les droits, une émission consacrée aujourd'hui aux droits des mineurs. J'ai le plaisir de recevoir maître Séverine Colnard et maître Élodie Petit qui répondent à vos questions et aux miennes en droit des mineurs. Nous poursuivons avec cette nouvelle question pour vous, maître Colnard. Un mineur peut-il être placé en garde à vue? Si oui, pour quelle durée et quels sont ses droits pendant cette mesure?
Et oui, Sonia, un enfant peut être placé en garde à vue. Alors, les conditions de son placement en garde à vue vont être différentes en fonction de son âge. Entre 10 et 13 ans, s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que cet enfant a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit, et là c'est une condition importante, qui est puni d'au moins 5 ans, alors il pourra être placé en retenue, en rétention, par un officier de police judiciaire, à condition que le procureur de la République lui ait donné son accord préalable ou le juge d'instruction, dans le cas d'affaires plus graves, ait donné son accord. Il ne pourra être retenu que 12 heures. Avec une possibilité quand même, parce que ce serait trop simple, de renouvellement si nécessaire. Donc de 10 à 13 ans, une retenue, mais il faut que l'infraction que vous ayez commise soit punie d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Et il faut quand même qu'il y ait des conditions, que ce soit justifié. Il faut que la mesure soit l'unique moyen de parvenir à permettre l'exécution des investigations, garantir la présentation du mineur devant le procureur, l'empêcher de modifier la scène de crime ou la scène du délit, de faire des pressions sur les victimes, les témoins, de se concerter et parfois de faire cesser l'infraction pour laquelle il est soupçonné. Donc voilà pour les petits. Ils doivent être évidemment placés dans un local qui est adapté, dans un local où il sera séparé de majeurs qui sont placés en garde à vue. Et puis, il a des droits, cet enfant. Il doit connaître les motifs, les raisons pour lesquelles il est placé en retenue. On doit lui notifier son droit au silence. On doit informer évidemment les parents, Sonia. Lorsque le mineur ne parle pas français, il doit pouvoir bénéficier d'un interprète et puis il doit aussi pouvoir accéder à certains éléments du dossier. Évidemment, il a le droit à un avocat et à un médecin obligatoire dès le début de sa garde à vue. Toutes ces auditions feront l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Et ces enregistrements audiovisuels ne peuvent pas être diffusés et ne seront accessibles qu'à la justice en cas de nécessité.
Donc,
pour les 10 ans à 13 ans.
Ah voilà, c'est ça, je me disais, attends, parce que je crois qu'il y a en plus d'autres tranches d'âge.
Parce que rien n'est simple, Sonia, rien n'est simple. On atteint ensuite la deuxième tranche, vous commencez à avoir votre capacité de discernement.
Oui, c'est ça, je suis toujours là-dessus.
Et à partir de 13 ans, d'accord, jusqu'à l'âge de 16 ans, cette fois-ci, vous pouvez être placé en garde à vue, mais il faut que le crime ou le délit pour lequel vous êtes soupçonné soit puni d'une peine d'emprisonnement. Dans ces cas-là, la durée de la garde à vue, elle sera de 24 heures. Elle pourra être prolongée 24 heures à nouveau. Et la prolongation ne sera possible que si l'infraction que vous avez commise est punie au moins de 5 ans d'emprisonnement. Il faudra une autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction et il devra, cet adolescent, être présenté devant un magistrat pour expliquer les raisons pour lesquelles la prolongation de la garde à vue est décidée. Souvent, ça se fait par visioconférence. les mêmes droits hein, que pour les enfants âgés de 10 à 13 ans, le droit à un avocat, le droit à un médecin, le droit de faire prévenir les parents, le droit d'avoir un interprète et le droit au silence qui est un droit fondamental que je défends bec et ongle dans mon quotidien professionnel. À partir de 16 ans, vous êtes là un petit peu plus aguerri, vous êtes un petit peu plus grand, plus proche de votre majorité civile. À ce moment-là, vous pouvez toujours être placé en garde à vue, à condition que l'infraction qui vous est reprochée soit punissable d'une peine d'emprisonnement. La durée est toujours de 24 heures, mais cette fois-ci, si le procureur de la République décide de vous prolonger pour une durée de 24 heures, dans ce cas-là, l'infraction, elle ne doit plus simplement être punissable d'une durée de 5 ans, qui vous est reprochée, c'était 5 ans pour les 13-16 ans, là, 1 an. Une infraction, donc autant vous dire que c'est quasiment toutes les infractions. 1 an de prison punissable. Pour certaines infractions qui sont un petit peu plus spécifiques, par exemple, l'infraction de trafic de stupéfiants ou de vol en bande organisée. Alors là, on peut monter. On peut monter haut en garde à vue. On peut monter jusqu'à 4 jours, 96 heures, si le mineur a été... si les policiers le soupçonnent d'avoir été co-auteur ou complice d'un majeur. C'est long, 96 heures. Dans ces cas-là, c'est la raison pour laquelle on va faire appel à un juge judiciaire, garant des libertés individuelles, qui s'appelle le juge de la liberté et ou de la détention, ou en matière de crime, souvent le juge d'instruction qui peut être saisi d'une information judiciaire lorsqu'il s'agit d'une infraction complète. Il faut faire attention, et ça je parle aux éditeurs d'IDFM Radio, il va falloir faire très attention, parce que trafic du stup, on peut s'imaginer tout de suite, oui, les gros narcotrafiquants, c'est le terme qui est désormais utilisé, qui confère un caractère un peu plus grave à l'infraction, ça peut être simplement être allé chercher son shit, hein, l'infraction de trafic de stupéfiants dans le code de pénal, c'est le fait d'acheter, c'est le fait de détenir, de transporter et de céder. Mais la cession du produit stupéfiant ne prime pas sur le simple fait de posséder ou d'avoir été acheté du produit stupéfiant. Et ça, il faut en être conscient. C'est une infraction qui est punissable par la loi de 10 ans d'emprisonnement. Et donc, on entre très facilement dans cette catégorie d'infraction. Et donc, un adolescent peut très facilement se retrouver en garde à vue pour une durée de 96 heures parce que, par exemple, un majeur lui a demandé d'aller chercher dans la cave dans le local poubelle un sachet. Voyez, il va détenir, transporter un sachet pour le compte d'un majeur. Il est co-auteur d'une infraction, complice d'une infraction de trafic de stupéfiants. Donc j'alerte vraiment les auditeurs d'IFM Radio sur ce point.
Bon, merci pour toutes ces précisions à l'attention de nos chers auditeurs d'IDFM Radio. Présence d'un avocat dans le cadre d'une garde à vue, est-ce qu'on peut préciser que ce barreau, le barreau du Val d'Oise, dispose d'avocats de permanence? Est-ce que vous pourriez nous expliquer le rôle de ces avocats?
Oui, bien sûr. J'imagine un petit peu que les parents qui sont appelés par des policiers parce que leur enfant a été placé en garde à vue peuvent se trouver un petit peu démunis. Ils sont au travail, mais alors il faut que je contacte un avocat. Moi, j'en connais pas. Comment je dois faire? Non. Le barreau du Val d'Oise, et d'ailleurs la plupart des barreaux, enfin tous les barreaux de France, l'avocat, il est obligatoire. Obligatoire en garde à vue pour des adolescents. Donc, tous les barreaux de France et le barreau du Val-d'Oise organisent des permanences pénales pour permettre que chaque adolescent placé en garde à vue puisse bénéficier de la présence d'un avocat sans que les parents aient à s'en soucier. Mais évidemment, le choix de l'avocat est toujours possible. Hein. C'est pas parce qu'un avocat commis d'office a été envoyé en garde à vue pour défendre votre enfant que vous ne pouvez pas choisir vous-même votre avocat.
Très bien, merci pour ces précisions. Maître Élodie Petit, nous avons reçu également des questions pour vous. Cette question, quelles sanctions peuvent être prononcées à l'encontre d'un mineur déclaré pénalement responsable ?
Alors, il faut savoir que la particularité du droit pénal des mineurs, c'est qu'il y a un grand principe qui s'applique systématiquement, c'est la primauté de l'éducatif sur le répressif. On ne vient pas sanctionner un mineur de la même manière qu'on sanctionne un majeur. On considère quand même que ces enfants, ces adolescents, il y a encore beaucoup de travail à faire, d'insertion, de compréhension et de lutte contre les récidives. Et donc, chaque magistrat qui a à connaître de ces dossiers là doit se poser la question de l'éducatif. De la même manière, moi j'ai souvent cette question de la part des mineurs, c'est mes maîtres, qu'est-ce que je risque en fait dans ce dossier ? Donc je leur dis attention, voilà, le code pénal prévoit une peine encourue souvent qui les impressionne beaucoup parce qu'on est sur 5 ans d'emprisonnement, 10 ans d'emprisonnement, des montants d'amende très importants. Mais je leur dis, en fait, la réalité, c'est ça va être votre comportement, ça va être votre discours, votre personnalité qui va jouer aussi. Et il y a tout un panel de sanctions qui peuvent intervenir et qui s'adaptent en fonction de l'évolution du mineur. Alors, par rapport au type de sanctions, il faut savoir qu'il y a d'abord les mesures éducatives. Il y a deux mesures éducatives. La première, c'est l'avertissement judiciaire. C'est le fameux rappel à la loi qu'on entend pour les majeurs. Voilà, donc l'audience sert d'avertissement, mais il n'y a pas de suite à cela. Et la deuxième chose, c'est les mesures éducatives judiciaires. Dans notre jargon, on appelle ça une MEJ, qui peut être personnalisée par différents modules. Donc on a par exemple le module insertion qui est très utile quand on a un mineur qui est en décrochement scolaire ou qui a des difficultés pour s'orienter. Donc là, on peut aussi l'aider, l'accompagner. Il peut y avoir le module réparation où là, c'est très intéressant aussi quand il y a une partie civile, pour qu'il puisse réfléchir un petit peu sur le sens de la peine, sur ce qu'ils ont commis. Et parfois, on peut leur demander d'intervenir auprès d'associations, de donner un peu de leur temps, dans différents domaines, mais qui est souvent bénéfique. Ça leur fait vraiment prendre conscience un petit peu qu'il y a d'autres situations délicates et qu'on peut apporter de l'aide aux autres. C'est un peu comme la même dimension que le travail d'intérêt général. Il y a aussi module santé, quand il y a des problèmes d'addiction ou de problèmes psychiatriques, psychologiques. Et enfin, ça peut être aussi un placement dans une structure si la cellule familiale, elle, n'est pas à la hauteur espérer et peuvent s'ajoindre des interdictions, des obligations. Par exemple, il y a les couvre-feux qu'on peut entendre dire quand il y a des émeutes, notamment des interdictions d'entrer en contact avec les victimes. Voilà, tout un tas de d'interdictions et d'obligations qui peuvent être vraiment au cas par cas en fonction de l'infraction reprochée. Elles peuvent être prononcées seules. Donc, quand on est sur des mineurs qui sont primo délinquants, quand leur parcours qu'on est au tout début, hein, que c'est les premières infractions, on peut rester sur une simple mesure éducative, toujours l'éducatif qui prime sur le répressif, mais ça peut aussi être en complément d'une peine pénale. Et dans ce cas-là, s'applique le principe de l'excuse de minorité. Donc ça, on l'a entendu aussi. Ce principe, ça signifie que le mineur encourt que la moitié de la peine encourue par le majeur, donc admettons une peine encourue de 10 ans dans le code pénal, eh bien le mineur, lui, ne pourra pas être condamné à une peine supérieure à 5 ans. Voilà, il y a une exception qui existe en la matière, c'est au-delà de 16 ans. Voilà, quand il y a des circonstances de l'espèce qui sont assez graves, la personnalité, les antécédents, la juridiction peut décider d'écarter cette excuse de minorité. Voilà, ça concerne vraiment des cas graves et notamment de récidive, mais ça existe aussi de ce côté-là. Et sur les types de peines, c'est ce qu'on retrouve un peu chez les majeurs, hein, c'est le travail d'intérêt général, par exemple, qui est possible pour les mineurs de plus de 16 ans. Le tribunal, à chaque fois, vérifie bien qu'ils sont consentants à cette mesure, parce qu'on travaille gratuitement, hein, quand même. Il y a des stages de citoyenneté, de prévention au niveau du stupéfiant, de l'alcool aussi, parce qu'on a ces problématiques-là qui se posent souvent chez les mineurs. L'amende est aussi une peine, mais c'est vraiment plus rare parce que ça n'a pas beaucoup de sens pour les mineurs que d'être condamné à une peine d'amende, moins de taper sur l'argent de poche. Voilà, c'est pas trop efficace. Et puis après, bah, les peines de privation de liberté, où là, c'est vraiment quand on a tout essayé, qu'on a fait de l'éducatif au maximum, qu'on a essayé progressivement de sanctionner de plus en plus, et que finalement, on n'y parvient pas, et que l'idée, c'est vraiment de mettre un coup d'arrêt et surtout d'empêcher la récidive. Donc là, on peut être sur de l'emprisonnement. Alors, toujours avec cette gradation des peines, le sursis simple, le sursis probatoire, et puis après, l'emprisonnement ferme qui peut être prononcé à l'encontre d'un mineur, mais voilà, c'est pas dans tous les cas le cas. Une petite précision. Puisque maintenant la procédure se fait en deux temps, il y a d'abord l'audience de culpabilité, puis 6 mois plus tard l'audience de sanction. Souvent le magistrat met à l'épreuve éducative le mineur, donc ça peut être sous la forme d'une mesure éducative judiciaire, pardon. Si c'est une réussite et que voilà, il n'y a pas de difficulté, on peut aussi être sanctionné de manière tout à fait symbolique, et que ça soit juste une dispense de peine ou une déclaration de réussite éducative. Donc aller devant un juge des enfants ou un tribunal pour enfants, ça ne veut pas forcément dire qu'on va avoir une peine pénale sur son casier judiciaire, hein. Voilà, donc je tenais à le souligner aussi de ce côté-là, ça peut être positif.
Merci pour ces précisions et votre optimisme sur cette procédure pénale pour les mineurs. Je vous propose de marquer une nouvelle pause musicale avant de poursuivre notre émission sur IDFM Radio. À tout de suite. Tells me that your body might be home for me. We were dancing in the wild in the ocean, but when the crowd is all around me, it's still all I see. And the way you lay me down and break me open tells me that your body might be home for me. We were dancing in the wild in the ocean, ocean, ocean.
We'll be right back.
IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
Vous écoutez IDFM Radio, c'est l'émission Tous les droits, aujourd'hui consacrée aux droits des mineurs. J'ai le plaisir de recevoir deux avocats du barreau du Val-d'Oise, maître Séverine Colnard et maître Élodie Petit, qui nous éclairent aujourd'hui sur le droit des mineurs. Alors maître Élodie Petit, je vous propose de poursuivre cette émission avec cette nouvelle question à votre attention. Les parents peuvent-ils être inquiétés en cas de condamnation pénale de leurs enfants? Et qu'en est-il sur le plan civil?
Alors oui, c'est une bonne question. Ça inquiète souvent les parents qui reçoivent une convocation en tant que représentant légal de leur enfant devant une juridiction des mineurs. C'est aussi d'actualité, hein, parce qu'on cherche de plus en plus à responsabiliser les parents de leurs enfants délinquants. Et donc voilà, il y a pas mal de choses aussi qui évoluent à ce niveau-là. Alors d'abord, je rassure quand même, non, ils ne sont pas responsables pénalement des infractions commises par leur enfant. Ils sont convoqués, ça c'est une certitude. On va aussi leur demander leur avis sur l'évolution du jeune, mais ils ne vont pas être condamnés pour ça et ils ne vont pas non plus exécuter la peine qui serait prononcée contre leur enfant. Mais il faut savoir quand même qu'il y a une infraction qui existe, hein, autonome, qui est susceptible d'intervenir si on considère qu'ils se soustraient à leurs obligations légales en tant que parents et qui porterait atteinte aux mineurs dans sa sécurité tant psychologique que physique, sa moralité, etc. Et on sait que ça peut être une circonstance aggravante aussi lorsque cette soustraction aux obligations a un impact direct sur une commission d'un délit ou d'un crime. Donc voilà, si vraiment le parent n'a pas un bon comportement, ça peut être qualifié quand même d'infraction pénale et à ce niveau-là, ils peuvent être sanctionnés toujours avec une peine d'emprisonnement et d'amende comme le prévoit le code pénal. À ce niveau-là, il faut savoir aussi que ils sont convoqués sur le plan civil, parce que là, pour le coup, ils sont civilement responsables des dommages causés par leur enfant. Il y a une nouveauté aussi par rapport à ça, c'est que il a été bien précisé qu'il n'y a pas de dimension de cohabitation. Donc, en fait, même pour les parents séparés, on ne peut pas venir s'exonérer de prendre en charge l'indemnisation des victimes pour son enfant parce que il n'aurait pas été sous son toit à ce moment-là. Donc, tous les parents qui détiennent l'autorité parentale sont civilement responsables. Sauf exception si l'enfant a été placé dans une institution administrativement ou judiciairement, évidemment. Ce qui peut être utile pour les auditeurs, à savoir si un jour ses parents sont confrontés à ce cas de figure, c'est que l'assurance habitation et responsabilité civile peut intervenir pour prendre en charge les dommages et intérêts. Alors il faut se méfier parce que souvent les assurances vont dire non, c'est une faute pénale, donc nous on n'intervient pas, sauf que c'est une obligation qui a là aussi été affirmée par la loi Attal du mois de juin 2025. Même en cas de faute de l'enfant, les assureurs sont obligés de prendre en charge les pertes et dommages causés par les personnes qui sont assurées sous l'égide de leurs parents. La seule exception qu'on peut avoir à ça, c'est quand un parent justement défaillant a été condamné pour l'infraction dont j'ai parlé juste avant, et là l'assurance peut effectivement se retourner contre le parent pour se faire rembourser des sommes versées à titre de dommages et intérêts.
Merci pour cette précision sur les compagnies d'assurance. Et d'ailleurs, je rebondis, est-ce que vous pouvez nous parler du dispositif de la protection juridique? Parce que les parents peuvent souscrire également des protections juridiques. Et est-ce que la protection juridique peut intervenir si votre enfant est convoqué devant un juge pénal pour l'assistance, un juge pour enfants d'ailleurs, mais...
Alors oui, la protection juridique peut potentiellement intervenir. Donc je recommande à tout le monde de souscrire une protection juridique parce que on ne sait jamais, mais on peut toujours en avoir besoin pour différentes matières, effectivement. Mais oui, si c'est pas prévu dans les petites clauses de la protection juridique, on peut faire intervenir un avocat à ce titre-là qu'il y ait une prise en charge des honoraires devant les juridictions des mineurs, même si, comme l'a rappelé ma consoeur tout à l'heure, il y a tout ce dispositif de permanence des avocats qui appartiennent au groupe mineur et qui se fait automatiquement. Donc, c'est plus rare, mais ça peut être utile dans des aussi complexe de faire intervenir sa protection juridique.
Oui, voilà, c'est une émission pédagogique, donc je rappelle régulièrement lorsque j'ai des avocats à ce micro et que nous avons la parole dans cette émission tous les droits, je rappelle toujours aux auditeurs d'IDFM Radio qu'il existe des dispositifs pour être accompagné, pour payer son avocat, et notamment le dispositif de protection juridique qui vous permet effectivement de bénéficier du concours d'un avocat selon un barème. Alors il y a des protections juridiques qui ont leur réseau d'avocats quand vous n'en avez pas, mais les avocats peuvent aussi vous dire, écoutez, si vous avez une protection juridique, je peux intervenir à ce titre. Voilà, donc c'est un dispositif que j'aime à rappeler régulièrement. Et puis si jamais vous n'avez pas ce dispositif là vous pouvez peut-être être éligible à l'aide juridictionnelle. Donc un avocat peut être désigné au titre de l'aide juridictionnelle, et vous l'avez rappelé, il y a aussi des avocats commis d'office pour les mineurs. Merci beaucoup pour la précision de vos réponses. Maître Séverine Colnard, la parole est de nouveau à vous. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la question suivante? Qui contacter lorsqu'un enfant est en danger? Que faire en cas d'extrême gravité, maltraitance ou violence sexuelle sur un enfant?
Oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, Sonia, c'est que les études les plus récentes ont pu démontrer que un enfant décède tous les 5 jours dans un cadre familial. Et selon une enquête qui est toute récente, qui a été réalisée en 2025, 74% des personnes interrogées déclarent avoir du mal à identifier les situations de violence. Seulement 33% des témoins de violence ont fait appel à la police, et seulement 18 personnes ont appelé un numéro d'urgence. C'est vous dire que la question, elle est pas simple du tout, du tout, du tout. À partir de quel moment on estime qu'un enfant il est en danger? Est-ce que je dois faire mon signalement? Est-ce que je vais pas être trop intrusif dans une famille ou mal apprécier une situation? Il n'est pas facile de placer le curseur, et voyez-vous, ces statistiques le montrent. Alors, pour rassurer nos auditeurs, j'ai une réponse toute simple. Tout le monde peut dénoncer des faits de violence ou des faits qu'on pense être des faits de violence, et on doit absolument contacter le 119, faire le 119 si on estime qu'un enfant est en danger. Oui, mais alors c'est quoi le danger ? La loi, elle nous donne quand même un élément de réponse. Alors, on a finalement 2 articles de loi qui vont nous parler de maltraitance. On a un article du Code civil qui nous dit que l'enfant peut être considéré en danger si sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger, ou que les conditions de son éducation, de son développement physique ou affectif, intellectuel, social, sont gravement compromises. Ça recouvre quand même pas mal de situations. C'est-à-dire que il y a certes les violences physiques qui peuvent être exercées sur des enfants, où là j'imagine que la plupart des personnes interviendront. Mais il y a aussi les violences psychologiques, quand vous constatez qu'un enfant, bah, il est sans arrêt rabroué, qu'il n'a pas d'espace de parole, que ça va pas, bah, il faut parler. On a évidemment les abus sexuels, ce qui est assez délicat, hein, parce que ce sont des accusations graves qui peuvent être portées, mais on n'est pas obligé de dénommer la personne à l'encontre de laquelle on a des soupçons, hein. On peut le faire, et j'y reviendrai après. Et puis on a toutes les négligences. Si vous voyez qu'un enfant, il va à l'école avec des vêtements qui sont complètement inadaptés, si vous voyez qu'un enfant, il est exposé à des violences conjugales, vous pouvez le savoir parce que, vous savez, les enfants, ils parlent. Et quand le soir, votre enfant, il vous raconte, « Oh, bah tu sais, Marie, elle a pu me raconter que ses parents, ils se battaient beaucoup. » Et ben là, voyez-vous, il faut agir. On a aussi des conditions de vie qui peuvent être dangereuses, et là il faut parler. C'est pas forcément que les violences elles sont exercées et que la maltraitance elle est volontaire. C'est juste que les conditions de vie, la précarité, induit a pour conséquence qu'un enfant il est en danger. Et puis on a les carences éducatives, un enfant qui est constamment dans la rue, qui n'est pas scolarisé, ou dont on voit que les parents ne s'en occupent pas. Il faut agir. Alors agir comment, Sonia? Je vous le disais tout à l'heure, on a la possibilité d'appeler le 119. Le 119, c'est une plateforme qui est ouverte. L'appel est complètement gratuit. La plateforme est disponible 24 heures sur 24. L'appel est confidentiel, donc n'ayez pas peur de le faire. L'appel ne figurera pas sur vos factures de téléphone. Il y a également un site qui est associé, allo119.gouv.fr. Si vous ne faites pas cette dénonciation, vous risquez quand même une condamnation pénale pour non-dénonciation d'une situation de maltraitance. C'est 3 ans d'emprisonnement encouru et 45 000 euros d'amende. Alors, il faut agir, vraiment. Si on est dans le cas de violence extrême, d'un cas de danger immédiat, ben là on réfléchit pas, c'est la police qu'on appelle. La police immédiatement, ou on peut également faire un signalement au procureur de la République. Le procureur de la République de Pontoise, si vous voulez lui écrire, c'est 3 avenue Victor Hugo, 95 300 à Pontoise. Vous pouvez également faire appel à un avocat qui lui pourra faire le filtre et dénoncer si vous avez peur d'une dénonciation calomnieuse, qui pourra lui aller voir le procureur de la République ou le juge des enfants pour dire moi écoutez, je suis inquiète dans cette situation. Saisissez-vous de cette situation. De toute façon, c'est pas vous qui déclarerez la culpabilité de la personne que vous dénoncez ou de la situation que vous dénoncez. Il y aura une enquête. Il y a une cellule de recueil d'informations préoccupantes qui est mise en place par le département, dans tous les départements. Une enquête préalable est faite. Et si on voit que vos inquiétudes n'étaient pas fondées, eh ben tant mieux. Tant mieux, ça s'arrêtera là. Par contre, vous avez peut-être la possibilité de sauver un enfant parce que si l'enquête révèle que l'enfant était effectivement en danger ou qu'il y avait des carences éducatives graves qui compromettaient l'évolution de cet enfant, eh ben vous aurez permis qu'il soit suivi par un juge des enfants. Et ça, c'est important. Alors, réagissez, dénoncez, protégez les enfants.
Mais vous avez parfaitement raison. Je vous remercie de la pertinence de votre intervention sur ce point, parce que finalement, on est responsable de nos enfants, mais on est aussi un peu responsable de ceux des autres. Et vous avez aussi raison de rappeler que souvent, c'est les enfants parlent entre eux et que les informations arrivent par nos enfants qui nous rapportent les propos de camarades de classe. Donc merci pour ce rappel. Merci d'avoir appelé le numéro d'urgence, donc le 119. Et je vous invite effectivement à contacter ce numéro en cas de doute, voilà. Et puis, je pense que, en tant que voilà, être humain, on a quand même souvent une intuition et qu'elle se révèle malheureusement ou heureusement souvent être la bonne. Donc, vous avez raison, faites-le. Nous faisons une nouvelle pause musicale avant de poursuivre notre émission Tous les droits consacrée aujourd'hui sur IDFM Radio aux droits des mineurs. À tout de suite.
Qui ose dire qu'il peut m'apprendre les sentiments? Ou me montrer ce qu'il faut faire pour être grand? Qui peut changer ce que je porte dans mon sang? Qui a le droit de m'interdire d'être vivant? De quel côté se trouvent les bons ou les méchants? Leurs évangiles ont fait de moi un non-croyant. La vie ne m'apprends rien. Je voulais juste un peu parler, choisir un train. La vie ne m'apprends rien. J'aimerais tellement m'accrocher, prendre un chemin, prendre un chemin. Mais je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste planté là. Les lois ne font plus. Mais quelques hommes font la loi. Mais je ne peux pas, je ne sais pas, et je... ceux qui croient que mon argent est dans ma tête. Je dis qu'il ne suffit pas d'être beau pour être honnête. Ils croient peut-être que la liberté s'achète. Que reste-t-il des idéaux sous la mitraille quand leurs prêcheurs sont à l'abri de la bataille? La vie des morts n'est plus sauvée par des médailles. La vie ne m'apprend rien. Je voulais juste un peu parler, choisir un train. La vie ne m'apprend rien. J'aimerais tellement m'accrocher, prendre un chemin, prendre un chemin. Mais je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste planté là. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Mais je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste planté là. Hommes font la loi, mais je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste planté là. La vie ne m'apprend rien.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Vous écoutez l'émission Tous les droits sur IDFM Radio. L'émission de ce jour est consacrée aux droits des mineurs. J'ai le plaisir de recevoir deux avocats du barreau du Val d'Oise, maître Séverine Colnard et maître Élodie Petit. Et nous poursuivons cette émission en répondant à cette nouvelle question, maître Séverine Colnard, qui a un lien un peu avec la question évoquée avant la pause musicale. Dans quel cas considérer qu'un enfant est en danger et qui doit faire un signalement lorsqu'un enfant est justement en danger?
Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Sonia, sur la notion de danger qui est difficile à appréhender, comment elle est définie par la loi. Je vous disais que tout le monde devait se sentir concerné par l'enfance en danger et que il y avait un numéro, le 119, spécifique pour dénoncer des faits que vous soupçonnez qui pourraient mettre en danger les enfants. Mais qui doit faire un signalement? Qui? Alors tout le monde. Et puis il y a certains professionnels plus que d'autres parce que ils sont peut-être en contact plus direct avec les enfants. J'entends les professionnels qui sont au contact des enfants. Et là, les enseignants. Les enseignants, les médecins, le secteur associatif. Quand l'enfant a des activités sportives ou culturelles, il est en contact avec des adultes et qui peuvent constater des traces de coups, qui peuvent constater que l'enfant est triste, un changement de comportement, un enfant qui a brutalement grossi ou qui inversement a brutalement maigri, un enfant qui du jour au lendemain se remet à uriner dans sa culotte. Voilà, tous ces comportements qui doivent alerter. Et là, la loi a un peu évolué en faveur de la défense des enfants. C'est-à-dire que le secret professionnel, dont la violation est une infraction pénale, peut être levé justement pour protéger les enfants. Alors les professionnels, eux, ils vont passer par ce qu'on appelle la cellule de recueil d'informations préoccupantes, donc dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est de la compétence du conseil départemental, qui diligentera une enquête, ou dans les cas les plus graves, le procureur de la République, qui sera informé avec un signalement de fait, qui diligentera une enquête, qui déterminera si oui ou non il y avait lieu de s'inquiéter.
Et pareil, ces professionnels peuvent être après poursuivis s'ils n'ont pas dénoncé.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. S'ils sont informés de faits, ils peuvent être poursuivis pour des faits de non dénonciation, de crime ou de délit.
Et je pense, vous parlez donc de ce secret médical qui finalement est levé hein, quand des mineurs sont en danger. Je pense notamment au cas des bébés ou des enfants secoués, où souvent ce sont les médecins qui accueillent les enfants, qui les prennent en charge, qui font un signalement au procureur et les enquêtes démarrent souvent, en tout cas pour ce phénomène-là, au stade de l'hospitalisation des enfants.
Ouais, ouais, tout à fait. Parce que les blessures sont caractéristiques quand même. Donc les médecins prennent pas de risque. S'ils voient qu'un enfant arrive assez fréquemment aux urgences ou qu'ils constatent des blessures qui sont pas normales ou qui sont caractéristiques de faits de violence, à ce moment-là, ils vont prévenir le procureur de la République. Procureur de la République qui saisira en urgence le juge des enfants, qui rendra ce qu'on appelle une ordonnance de placement provisoire pour mettre en sécurité rapidement l'enfant, et puis ensuite une enquête sera faite, il y aura un débat qui sera organisé très rapidement, j'ai plus le délai exact en tête, mais je crois que c'est 8 jours ou 10 jours après, et un débat où les parents pourront se défendre, faire appel à un avocat, et puis le juge décidera si oui ou non il y a lieu de placer de manière plus définitive ou en tout cas de manière plus longue l'enfant dans une pouponnière, dans une famille d'accueil ou auprès de l'aide sociale à l'enfance, ou si il pourra retourner chez ses parents avec une mesure d'assistance éducative, des éducateurs qui viendront régulièrement s'assurer que l'enfant est pris en charge de la meilleure manière que ce soit.
Merci pour toutes ces précisions. Maître Élodie Petit, de nouvelles questions pour vous. Alors là, on est plus spécifiquement là depuis deux questions, en tout cas sur le cas des enfants mineurs victimes. Donc que faire si son enfant est victime de harcèlement et ou de cyberharcèlement à l'école ?
Alors un petit peu comme l'a rappelé ma consoeur, hein, je dirais que déjà la première des choses, c'est de vraiment prendre leurs paroles au sérieux et d'être à l'écoute. Et en tant qu'adulte, une fois après avoir recueilli ces informations-là, être actif. Je déconseille d'intervenir directement auprès des auteurs de harcèlement parce que parfois ça peut vraiment aggraver la situation. Et en premier lieu, plutôt prendre attache auprès des établissements scolaires, le plus généralement, mais ça peut être aussi auprès des associations sportives, culturelles qui peuvent accueillir vos enfants. Par rapport à ça, l'école a quand même une obligation de surveillance, de sécurité des enfants. Donc, l'équipe éducative doit veiller à ce que ça se passe bien. Et donc, une fois qu'ils ont connaissance de la difficulté, une procédure en interne doit se mettre en place pour observer les comportements, mais aussi mettre en protection l'enfant qui serait victime de harcèlement. À ce stade-là aussi, si on voit que l'auteur de harcèlement a des difficultés, il peut y avoir un signalement fait, comme l'a exposé ma consoeur, pour que voilà, des décisions soient prises pour aussi le sécuriser. Ensuite, une fois ce travail fait avec l'équipe éducative, évidemment que les parents peuvent aussi intervenir sur le plan judiciaire et donc déposer une plainte contre l'auteur de harcèlement scolaire. Donc après, ça peut être contre une personne spécifiquement ou plus généralement permettre à l'enquête aussi de déterminer qui sont les acteurs de harcèlement ou cyberharcèlement. Je dirais qu'à cette occasion-là, c'est important aussi peut-être de recueillir les preuves qu'on peut avoir sur le moment, notamment en matière de cyberharcèlement, puisque maintenant, c'est le problème des téléphones portables, c'est que ça se poursuit pas seulement dans l'établissement scolaire, mais ça continue à la maison quand les enfants rentrent. Et donc, c'est faire des copies d'écran ou en tout cas pouvoir les montrer aux enquêteurs lors du dépôt de plainte pour qu'ils puissent recueillir ces informations-là. Parce que on peut aussi être sur des cas où c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre et c'est des informations précieuses qui permettent aussi d'avancer sur une issue pénale. Par rapport au contenu spécifiquement sur Internet, faut aussi que je rappelle que la plupart des réseaux prévoient le signalement. Donc, quand il y a des posts qui sont faits sur différents réseaux, on peut le signaler pour que ce soit supprimé auprès de Facebook, Instagram, etc. Et il y a aussi une plateforme qui s'appelle Pharos, où quand on est témoin peut-être de faits de harcèlement en ligne, de pouvoir dénoncer aussi cette infraction-là. Un dernier conseil aussi au moment du dépôt de plainte, parce qu'il peut se faire soit au commissariat, à la gendarmerie, on peut aussi écrire au procureur directement. Ça, c'est pas forcément une démarche facile, donc c'est pour ça que parfois l'avocat peut être utile pour savoir un petit peu quels sont les éléments à mettre dans cette plainte et accompagner la famille. Mais c'est surtout qu'on va peut-être aussi leur proposer de présenter leur enfant à un médecin. C'est ce qu'on appelle des unités médico-judiciaires. Alors bien souvent, le réflexe, c'est de dire « bah non, il n'y a pas de coût, ça ne se voit pas, donc c'est pas utile, non merci ». Sauf que on oublie que ce médecin, il est formé et qu'il peut aussi établir un retentissement psychologique. Et donc ça, c'est très important parce que dans le harcèlement, il y a un élément constitutif primordial, c'est qu'il y a une atteinte au moral, au psychologique de la personne qui se trouve en face. Donc c'est très important, et si la question est posée, il faut dire oui absolument pour qu'on puisse avoir un certificat médical utilisé dans le cadre de l'enquête et en justice.
Oui, vous avez raison de le rappeler, pour que les plaintes soient instruites ou aboutissent, il faut qu'elles soient complètes, il faut que les éléments que vous avez recueillis soient pertinents, d'où la nécessité d'aller voir, prendre conseil auprès d'avocats, parce que les avocats, on vient souvent les voir quand c'est un petit peu trop tard, soit que on n'a pas eu de réponse à une plainte, ou alors que la procédure est en marche. Donc prendre rendez-vous auprès d'un avocat, voilà, dans le cadre d'une consultation juridique sur ce type de fait, c'est tout à fait possible, et je vous remercie de l'avoir rappelé. D'ailleurs, concernant ces faits de harcèlement et de cyberharcèlement, vous travaillez, vous, à sensibiliser un peu les jeunes, que ce soit dans le cadre de votre activité ou via des associations, sur ce sujet très spécifique?
Alors, pas auprès d'associations, j'ai pas eu encore l'occasion d'intervenir dans les établissements scolaires, mais par contre, c'est vrai que quand je rencontre les mineurs dans le cadre des procédures pénales, ça peut m'arriver aussi d'avoir ce discours-là avec eux, parce que ils peuvent être poursuivis pour des faits de harcèlement, mais des fois, ça va plus loin que ça. C'est que c'est quelque chose qui est prégnant, mais qui n'est pas encore vraiment mis en avant dans les procédures. Et je leur dis attention, voilà, là-dessus, ça c'est qualifié de harcèlement. Et c'est un petit peu de les sensibiliser aussi à l'utilisation des réseaux, parce que bien souvent, ça peut avoir des répercussions psychologiques importantes.
Oui, et puis c'est des phénomènes de groupe aussi, donc on peut aussi rapidement être auteur d'harcèlement, contribuer à ce phénomène-là en tant qu'adolescent. On est pris dans la classe ou à l'échelle d'un établissement, mais il y a la victime, mais il y a aussi les auteurs, et finalement on peut ne pas avoir conscience de participer à ce mouvement-là tout en étant quand même aussi auteur. C'est vrai que c'est une infraction particulière.
Oui, tout à fait.
Donc voilà, c'est important de le rappeler. Une dernière question pour vous. Un enfant mineur peut-il déposer seul une plainte?
Alors, bonne question, et cette question, elle est positive, c'est-à-dire que oui, un enfant peut déposer plainte tout seul. Il n'y a pas d'obligation dans le code de procédure pénale d'être absolument assisté d'un de ses parents. Voilà, la réponse est logique, hein, parce que l'idée, c'est aussi de leur permettre de pouvoir dénoncer des faits au sein de la cellule familiale sans être inquiété. En général, une fois que la plainte est déposée auprès d'un commissariat ou d'une gendarmerie, les parents sont informés, sauf évidemment si cela mettrait en danger le mineur. Donc voilà, tout le monde est vigilant aussi à l'information qui sera transmise auprès des parents.
Et il y a des brigades d'ailleurs spécialisées pour les mineurs sur le département, où tous les commissariats peuvent traiter ce type d'infraction?
Tous les commissariats peuvent traiter ce type d'infraction. D'ailleurs, on peut déposer plainte partout où on veut, hein. Voilà, c'est pas obligé d'être allé la brigade ou le commissariat de son domicile, même si ça facilite clairement le traitement du dossier quand c'est à proximité et que c'est sur le lieu d'infraction. Donc ils peuvent aller partout, mais après c'est vrai qu'il y a un effort qui est fait de former des professionnels dédiés à ça, et forcément la plainte est prise avec plus de soin quand le professionnel est formé et sensibilisé à ces questions-là.
Oui, vous avez raison de le rappeler. On peut porter plainte partout pour des faits commis sur le territoire français, en tout cas, mais des faits commis dans le sud de la France, on peut les dénoncer ici en se rendant au commissariat. C'est important de le rappeler qu'il n'y a pas de territorialité pour les dépôts de plainte. Merci beaucoup. Alors là, j'ai une question et je m'adresse à toutes les deux. Donc, vous exercez en droit des mineurs. Est-ce que vous avez une réflexion à faire, parce que on a un peu diabolisé des fois les mineurs, et notamment en parlant de délinquants mineure, un phénomène de plus en plus inquiétant. Vous avez beaucoup de primo-délinquants, est-ce que, ou alors c'est tous des multirécidivistes déjà, maître Élodie Petit?
Ah bah après, les statistiques montrent que finalement les récidivistes sont peu nombreux. Hein, voilà, je pense qu'on est à peu près un équivalent. 95% des mineurs, ont été condamnés une seule fois dans leur vie. Et puis il y en a d'autres, par contre, qu'on retrouve très souvent parce que ils sont vraiment dans un parcours délinquant ancré. Voilà. Donc à ce sujet-là, voilà, il faut pas non plus généraliser. Et après, il faut aussi se dire que peut-être cette primauté éducative sur le répressif fonctionne et permet dès le départ d'avertir les mineurs de leurs droits, mais aussi des limites de la loi, et peut-être aussi tout de suite corriger les difficultés rencontrées à l'école, au domicile familial et dans son comportement, pour après mieux évoluer et mettre fin au parcours délinquant.
Et maître Séverine Colnard, vous partagez ce sentiment aussi?
Je partage complètement la réflexion qui vient de vous être faite par ma consœur et Élodie Petit. Je suis souvent très agacée par les discours démagogiques à l'encontre des enfants, des adolescents. On ne leur donne pas le droit de conduire une voiture avant l'âge de 17 ans maintenant. Ils n'ont pas le droit de souscrire un crédit. Ils n'ont pas le droit de voter. Ils ont le droit de... moins de droits que les adultes parce qu'ils sont enfants et qu'ils sont en cours de construction. C'est la même chose quand il faut les punir. Donc ça, il faut toujours garder ça dans sa tête. Mettre en priorité l'éducation des enfants plutôt que leur punition, qui ne sert souvent à rien, à part plus les détruire. Vous avez des enfants qui comparaissent devant les juges des enfants, sont souvent des enfants qui sont déjà bien abîmés par la vie. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Et on le vit tous les jours dans notre exercice professionnel. Je peux vous assurer que souvent, j'ai très très mal au cœur.
Oui, c'est des audiences qui sont difficiles, hein, pour les auteurs, pour les victimes, et cette justice des mineurs, c'est une justice éprouvante pour tous les intervenants, que ce soit les magistrats, les avocats, les éducateurs. Alors moi, c'est pas une matière que je pratique beaucoup, mais quand je passe dans les couloirs des juges des enfants, j'ai beaucoup d'admiration pour tous ceux qui y œuvrent quotidiennement, parce que je trouve qu'ils font un courage inédit, beaucoup de volonté pour les accompagner, tous ces enfants, quel que soit leur statut d'ailleurs. Et je vous remercie d'avoir pris la parole aujourd'hui et d'avoir délivré des messages généraux, pédagogiques, et puis rappeler que c'est nous les adultes, hein, aussi, qui devons prendre soin des enfants. Vous avez raison de le rappeler, à nous de rappeler le cadre, à nous rappeler les droits de ces enfants. Maître Colnard, vous aviez un ouvrage à nous conseiller sur les droits.
L'éducation civique. D'accord, en général, mais je trouve que c'est très bien parce que les enfants souvent ignorent que la règle du jeu. Moi, je trouve que notre vie en société, c'est un jeu, et si on n'en connaît pas la règle, eh ben ça marche pas. C'est un livre, ce sont des BD qui ont été rédigés sous l'impulsion de François Hollande, et je vous conseille vivement Leur République de François Hollande. C'est une BD assez ludique, mais qui rappelle bien un petit peu les devoirs, les droits, et qui pourront aider vos enfants à devenir des petits citoyens respectueux de nos règles de droit.
Merci beaucoup pour cette recommandation. Merci à vous deux d'avoir été mes invités pour ce nouveau numéro de Tous les droits. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Francky pour la technique. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Son podcast sera disponible sur le site de la radio idfm98.fr.
idfm.fr. Prochain numéro le 5 janvier en droit de la consommation et en droit bancaire. Je vous invite à adresser toutes vos questions sur ce thème à l'adresse tldidfm@gmail.com. À très vite pour un nouveau numéro de Tous les droits sur IDFM Radio. Belle journée et excellente semaine à tous.